plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, B comme Bazin, André Bazin, avec Hervé Joubert, Laurent Saint et Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. André Bazin était un homme d'avant le péché originel. Tout le monde le savait honnête et bon, mais son honnêteté et sa bonté surprenaient toujours, tant elle se manifestait pleinement. Parler avec lui, c'était comme pour un hindou se baigner dans le Gange. Cet éloge funèbre est de François Truffaut, fils adoptif d'André Bazin. André Bazin est mort précocement il y a 60 ans, la veille du tournage des 400 coups. Ce n'est pas cet anniversaire qu'on célèbre cette année, mais celui des 100 ans de la naissance de celui qui fut, après-guerre, parmi les plus importants critiques de cinéma, le théoricien majeur d'un art encore jeune, qu'il s'agissait alors d'imposer précisément comme un art à part entière. Bazin, depuis, a fait l'objet d'une institutionnalisation allant jusqu'à la mythologie, qui a fait du cofondateur des Cahiers du cinéma un totem de la pensée cinématographique à la française, pensée qui s'appuie encore aujourd'hui sur quelques concepts qu'il a forgés dans les années 40 et 50, le réalisme ontologique, le montage interdit et la célébration de la continuité par la profondeur de champ et le plan séquence, une notion qu'il a inventée et qui tend à statuer l'apôtre du cinéma impur et inventeur de sous-genres cinématographiques en père spirituel, pour ne pas dire simple préparateur de terrain de la nouvelle vague et du cinéma moderne en général. Sauf que cet héritage bazinien s'appuie seulement sur une poignée d'ouvrages, 13 au total, dont 11 sont posthumes, un canon qui représente moins de 10% de son abondante production critique. C'est pourquoi l'édition intégrale et scientifique de ses écrits complets, 2700 textes écrits en 15 ans, est non seulement un événement éditorial, mais une révolution dans l'appréhension que nous aurons désormais de la pensée de Bazin, trop souvent réduite à des formules mal comprises. Le maître d'œuvre de ce livre monstre de 2848 pages et 3,4 kg, qui lui a pris 20 ans de travail, Hervé Joubert Laurencin, est aujourd'hui dans Plan Large et on le remercie de s'être extrait pour vous, chers auditeurs, du colloque Bazin en cours à la Cinémathèque française. À ses côtés, une fervente bazinienne, Charlotte Garçon, qui en fin d'émission nous parlera d'un autre événement, la parution en coffret DVD de l'intégrale restaurée des films de Jean Vigo, le plus pur des poètes du cinéma, comme l'appelait André Bazin. Et maintenant, générique.
C'est d'après le roman d'Alberto Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Il y a aussi Jacques Palance et Georgia Moll. Et Fritz Lang. Les prises de vue sont de Raoul Coutard. Georges Delerue a écrit la musique. Le son a été enregistré par William Sivel. Le montage est d'Agnès Guillemot. Philippe Dussart s'est occupé de la régie avec Carlo Lastricati. C'est un film de Jean-Luc Godard. Il est tourné en scope et tiré en couleur par GTC à Joinville. A été produit par Georges de Beauregard et Carlo Ponti pour les sociétés Rome Paris Film, Concordia, Compagnia Cinematografica Champion à Rome. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Le mépris est l'histoire de ce monde.
Vous aurez reconnu évidemment le générique parler du mépris de Jean-Luc Godard, et déjà ça commence très mal. Je voyais la tête d'Hervé Joubert-Laurencin, parce que la phrase que Godard attribue à Bazin n'est pas de lui, en fait elle est de Michel Mourlet, et puis en plus elle est parue sous une forme légèrement différente dans un numéro des Cahiers du cinéma qui est paru 9 mois après la mort de Bazin. Et sauf que c'est la phrase qu'on cite le plus souvent quand on parle de Bazin, c'est dire Hervé Joubert-Laurencin que si l'homme Bazin est sans doute le plus connu des critiques français de l'après-guerre, sa pensée l'est finalement beaucoup moins.
Bonjour Antoine Guillot. C'est une fiction que vous avez dite, j'ai pas fait de tête du tout, parce que ça fait très longtemps que je sais que ce n'est pas une phrase d'André Bazin, et qu'elle est d'autant plus belle qu'elle est apocryphe, que cette citation est apocryphe. Comme il y a des évangiles apocryphes, il y a un évangile basinien qui est complètement apocryphe, et celui-ci le représente complètement, mais... pour le bien en quelque sorte, parce que c'est très beau, c'est une invention, c'est une réinvention. Donc de ce côté-là, ça se différencie des récitations paresseuses que vous avez évoquées. Celle de Godard est très inventive, c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire, c'est une phrase qu'il attribue à Bazin. Je me suis aperçu en finissant ce livre de Bazin que au fond je crois que c'était quelque chose de, enfin, de comme un enfant en polisson, quoi. Cette affaire. C'est-à-dire que Godard, j'ai l'impression, a voulu faire comme les autres, parce qu'il y a eu au moins 3 personnes qui ont dédié leur film à Bazin juste après la mort de Bazin. Et vraiment très peu d'années plus tard, il l'a fait aussi, mais à la manière d'eux en quelque sorte, comme si par-dessus les autres, il faisait une nouvelle citation. Mais cette fois, lui, il n'a pas fait comme les autres, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il a pris une citation de quelqu'un qui n'était pas du tout Bazin, qui était Michel Mourlet, qui est encore vivant aujourd'hui. Je l'ai rencontré un jour et il m'a révélé d'ailleurs qu'il n'avait jamais vu le film et qu'il avait appris qu'on avait modifié sa citation en lisant un article dans Art Press. Et là, je me suis aperçu que c'était l'article que j'avais écrit, et ça m'a paru assez incroyable, des boucles qui continuaient comme ça. Voilà, donc Bazin n'a jamais écrit ça, mais Mourlet n'a jamais écrit ça non plus, puisque finalement Godard a retourné les pronoms personnels, ce qui fait que la phrase veut dire le contraire. Donc, au fond, il attribue à Bazin le contraire de Mourlet. Du coup, ce n'est ni du Mourlet ni du Bazin, c'est du Godard. Et c'est ça qui est assez formidable dans cette affaire.
Alors, dans les personnes qui ont dédié leur film à André Bazin, il y a évidemment François Truffaut. Hein, les 400 coups sont dédiés à Bazin. Ce qui fait que, entre la phrase apocryphe, donc inventée par Godard, et ses hommages, c'est vrai que dans l'aspect général qu'on se fait de Bazin, c'est celui qui permet la nouvelle vague, mais finalement on oublie beaucoup ce qu'il a écrit avant. Alors c'est ce qui est formidable avec cette édition volumineuse des écrits complets de Bazin, c'est qu'on voit apparaître un critique très prolixe, hein, vous avez calculé en moyenne, c'est un article tous les 2 ou 3 jours.
Oui, tous les 2 jours, si on fait le calcul. Oui. Et encore, il faudrait encore retrancher 1 an et demi de tuberculose au sanatorium sans écrire, où il s'est remis à lire et où il est reparti de plus belle en 1951. Mais c'est à peu près un article tous les 2 jours.
Donc il publie à la fois dans un quotidien, dans le Parisien Libéré, il publie dans des hebdomadaires qui deviendront l'un le Nouvel Obs, c'est France Observateur, l'autre Télérama, c'est Radio, Cinéma, Télévision, il publie dans Esprit, il publie un peu partout, et surtout ce qu'on découvre et ce que vous mettez très bien en valeur, Hervé Joubert-Laurencin, c'est que le Bazin théoricien du cinéma, c'est surtout quelqu'un qui se coltine toutes les sorties de la semaine et qui invente sa pensée du cinéma au fur et à mesure qu'il voit les films qui sortent. Ouais. Ce n'est pas un historien du cinéma.
Non, ça c'est la belle... Enfin, on le savait, mais on ne le savait pas concrètement. Donc ça, c'est la vraie découverte d'étaler l'un après l'autre tout ce qu'il a écrit, c'est de découvrir que c'est d'abord un journaliste. Donc, c'est un journaliste, mais c'est un journaliste quand même un petit peu spécial parce qu'il a une grande écriture, au fond. Donc il ne laisse jamais rien au hasard. Donc même la plus petite chronique dans le Parisien Libéré, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Il y a toujours au moins une phrase, il y a une description, parce que Bazin décrivait les films, il spoilait beaucoup. Et c'est assez amusant d'ailleurs qu'on ait retrouvé une discussion avec un courrier des lecteurs, où un lecteur dit, enfin vous pourriez quand même arrêter de raconter la fin du film, c'est terrible. Et Bazin lui répond du tac au tac, très 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 sérieusement. Il lui dit, mais moi j'ai appris mon métier, et on m'a appris que d'abord il fallait décrire les films, avant de commencer.
reçoit le même genre de courrier à France Culture, n'est-ce pas, Charlotte Garçon? Alors, le premier article publié dans ces écrits complets commence par une question. Peut-on s'intéresser au cinéma? Réponse, non, ce n'est pas l'affaire d'un critique sérieux. Le cinéma, c'est de la sous-crotte de bique. Là, il cite un certain Paul Soudé, complètement oublié aujourd'hui. Et le dernier article, paru en décembre 1958, donc un mois après la mort de Bazin. La fonction du critique n'est pas d'apporter sur un plateau d'argent une vérité qui n'existe pas, mais de prolonger le plus loin possible dans l'intelligence et la sensibilité de ceux qui le lisent, le choc de l'œuvre d'art. Comment vous le voyez, le Bazin critique, Charlotte Garçon?
Oui, alors moi je trouve que c'est une magnifique phrase, celle-ci, qui est très, qui définit très bien l'idéal, en tout cas, du métier de critique, et qui désigne aussi, du coup, ce métier, pas seulement dans l'écriture, mais dans toute une autre activité qu'on peut juger périphérique, mais en réalité on comprend par l'œuvre et la vie de Bazin qu'elle ne l'est pas, et moi je trouve aujourd'hui qu'elle ne l'est toujours pas, et qui est l'éducation populaire, enfin ce qu'on appelait peut-être à l'époque l'éducation populaire, c'est-à-dire animer des ciné-clubs, aller parler des films, j'allais dire à la radio après tout, oui, il y a aussi des moments de radio.
Il participait à la tribune des critiques.
La tribune de Paris.
La tribune de Paris.
Ouais. On l'entend parfois, oui, dans les nuits de France Culture, ces archives sont parfois audibles. Et puis, donc vraiment d'aller dans les salles, parler aux gens et déplier ces significations. Ce sont des choses que les gens ne se ressentent, mais ne se formulent pas encore. C'est des petits embryons de pensée, de ressenti. Et le critique, c'est aussi ça. C'est pas tenir une place, me semble-t-il, dans un journal et émettre un jugement. D'ailleurs, on voit bien que les jugements de Bazin sont, fluctuants et qu'il l'assume.
On y viendra sur les repentirs de Bazin. Alors évidemment, toute cette parole de présentation des ciné-clubs et des débats est perdue, mais la parole écrite est là. Alors on va voir comment, à partir de quelques films qui sont sortis du vivant d'André Bazin et dont on a pu voir certains dans la rétrospective L'histoire du cinéma vue par André Bazin, qui se termine demain à la Cinémathèque française. On va voir comment s'élabore cette pensée.
C'est maman. Oh, mais vous êtes ravissante, mademoiselle. On vous prendrait pour une petite fille. Quel âge avez-vous?
J'ai 25 ans, madame. Oh, mais c'est vous, madame. Excusez-moi. Qui vous a fait entrer?
Mais c'est papa, ce monsieur.
Père.
Encore une. Mais jamais personne ne veut croire que papa est d'âge à être papa. Oh. Bah, si nous sortions ensemble, on nous prendrait pour deux copains.
Michel, présente-moi.
Je sais plus ce que je fais.
Madeleine, comme tu as froid.
Et t'as de sa main, Léo.
Elle a les mains glacées, sommes-nous donc si terribles?
Mais serre la main de Léo.
Madame.
Ah non, non, mademoiselle, une vieille demoiselle qui cessera bien vite de vous intimider.
La famille au grand complet. Tu vois, c'était pas la mère à voir.
Michel, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Elle se trouve mal.
Tu trouves mal?
Non, Michel, non.
Non, ne vous levez pas. Michel nous conduira.
Mais je pourrais peut-être aussi...
Reste! Michel!
Michel! Tu me laisses seule.
Mais pas seule, avec papa.
Oh non, Michel, écoute, c'est impossible. Ne me laisse pas seule.
Michel, conduis-nous!
Du théâtre transformé par la magie blanche et noire en pur cinéma. C'est comme ça qu'André Bazin titre un article de L'Écran français en 1948, date de sortie des Parents terribles de Jean Cocteau. Article dans lequel il essaie d'expliquer, je le cite, pourquoi, en prenant le parti apparemment le moins cinématographique qui soit, Cocteau a fait des Parents terribles l'un des plus purs morceaux de cinéma de ces 10 dernières années. Et il conclut l'article en écrivant qu'une certaine fidélité à l'esprit et aux moyens du théâtre n'est pas seulement compatible avec l'écran, mais encore qu'elle peut être le gage de la plus grande invention cinématographique. En vérité, s'il y a tant de cinéma dans Les Parents terribles et du plus pur, c'est que Cocteau a pris le parti d'y mettre encore plus de théâtre qu'à la scène. Alors on sent la pensée, le goût pour les paradoxes de Bazin, et voilà que naît une des premières grandes théories de Bazin, celle du cinéma impur, qui va théoriser plus directement 3 ans plus tard dans un texte très fameux, Pour un cinéma impur, défense de l'adaptation.
Oui, c'est une des, ce qu'on appelle théorie d'André Bazin, en fait regroupement d'idées. autour d'un noyau, parce que Bazin est théoricien au sens où il ne fait pas de théorie comme un professeur fait une théorie ou écrit un livre, puisque...
Vous ne construisez pas un système.
Comme on l'a dit, voilà. Le système arrive de fait, et d'une certaine manière, c'est à nous, c'est au lecteur de le construire. Donc le cinéma impur, on a très bien entendu dans la citation que vous avez faite, précisément le paradoxe. Mais là, c'est un paradoxe, c'est pas le paradoxe pour le paradoxe, c'est vraiment fondamentalement l'idée que la pureté du cinéma n'est pas dans une extériorité. C'est pas un art pur au sens où il va être différent des autres. Il va être pur uniquement parce qu'il est impur. Enfin, Bazin va dans son style paradoxal et presque baroque jusqu'à dire l'impureté à l'état pur. Hein. Il y a un texte où il parle de l'impureté à l'état pur. Bon, et ça, on entend très bien le paradoxe, mais qui est renouvelable à plein d'endroits. C'est-à-dire ce qu'il appelle le cinéma impur, c'est tout simplement, c'est pas mille choses, hein, c'est tout simplement la relation du cinéma avec les autres arts. Et il en a choisi trois. Ceux, en fait, on discute à son époque, puisque Bazin travaille aussi sur un discours de son époque. Donc, la façon dont on appréhende le cinéma. Et donc, c'est l'adaptation. Tout le monde parle de l'adaptation des romans. Donc, lui prend le roman, mais dit que le problème n'est pas la bonne ou mauvaise adaptation, parce que ça l'intéresse, mais ça va pas très loin. Donc, il va finir par dire, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se tramer, et ça va vers la constitution de l'auteur, c'est que un cinéaste peut être considéré comme un artiste, voire comme un romancier, c'est-à-dire qu'on peut écrire en cinéma. Voilà, la grande formule, c'est on peut désormais écrire en cinéma. Bon, et puis après il parle de la peinture et c'est la question du tableau et de l'écran, hein, le fameux écran ouvert sur le monde. En réalité, c'est tout à fait formel. C'est une relation. C'est pas du tout spirituel. C'est formel. C'est une relation avec la pensée de la peinture. Hein, le fameux cadre de peinture qui est centripète et l'écran de cinéma qui est centrifuge. On construit pas de la même façon une image de cinéma parce qu'elle part toujours sur les bords. Alors, lui ne parle pas de hors-champ, parce que c'est trop tôt, mais plus tard, on parlera de hors-champ et on utilisera beaucoup cette notion, mais ça vient de cette idée de centrifuge chez Bazin. Et puis, le troisième, c'est le théâtre. Et le théâtre, c'est la question de la présence, et Bazin dit quelque chose de formidable, c'est que, certes, les acteurs sont pas présents dans une salle de cinéma, mais néanmoins, la présence, c'est pas seulement la réalité physique. Il y a des effets de présence dans le cinéma, et donc il faut revendiquer aussi le cinéma qui peut être du théâtre, comme dans cet extrait de Des parents terribles. Et plus on fait théâtre, plus on est cinéma. Et pour moi, ça va jusqu'à Strobé-Huillet. Enfin, c'est vraiment une pensée française de l'impureté à l'état pur.
Fa di me uno strumento della tua pace, dove l'odio fa che io porti l'amore, dove la discordia fa che io porti l'unione, dove il dolore fa che porti la gioia, fa che porti la speranza, dove la disperazione. Oh maestro, fa che io non mi preoccupi tanto di essere amato quanto di amare, e che tutti conoscano sopra la terra il segreto della tua pace, che è il frutto della giustizia e della carità fraterna. Cantate un poco più piano, più piano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Fratellini miei uccellini, voi potete lodare Dio molto facilmente, perché avete libertà di volare e tutta la purità dell'aria per voi. Adesso lasciate che possa lodarlo anch'io molto tranquillamente. Cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, così sia.
Vous écoutez France Culture, un plan large sur André Bazin à l'occasion de la sortie événement de ses écrits complets et au milieu des oiseaux, l'homme qui prie, c'est Francesco. Ce sont les 11 Fioretti de Saint-François d'Assise de Roberto Rossellini en 1950. Alors je vais encore citer André Bazin, on va beaucoup le citer dans cette émission. Le terme de néoréalisme, écrit-il, ne devrait jamais être employé comme substantif, sinon pour désigner l'ensemble des metteurs en scène néoréalistes. Le néoréalisme n'existe pas en soi, il n'y a que des metteurs en scène néoréalistes, qu'ils soient matériels, réaliste, chrétien, communiste ou tout ce que l'on voudra. Visconti est néo-réaliste dans La Terre tremble, qui appelle à la révolte sociale, et Rossellini est néo-réaliste dans Les Fioretti, qui illustre une réalité purement spirituelle. Alors, ce qui est passionnant quand on lit les textes de Bazin, c'est qu'on voit naître le néo-réalisme. Bazin assiste à cette naissance. Il va beaucoup observer son évolution, parce que l'évolution du cinéma, c'est la grande préoccupation d'André Bazin. Il le voit florissant là où d'autres disent qu'il est déjà fini dès 1951, et puis il écrit ce célèbre texte « Défense de Rossellini » qui est repris dans le livre « La Bible de Bazin, le Qu'est-ce que le cinéma ?» Il écrit « C'est Rossellini qui, de tous les réalisateurs italiens, me paraît avoir poussé le plus loin l'esthétique du néo-réalisme. » Mais la question du réalisme est aussi la grande question de Bazin. Il se fera connaître par ce texte très fameux ou qu'il écrit très jeune sur le réalisme ontologique de l'image photographique et donc a fortiori cinématographique. Comment est-ce que sa préoccupation du réalisme se recoupe avec l'émergence du néo-réalisme qu'il va accompagner?
Oui, les deux vont ensemble. Ce qui est assez passionnant dans le rassemblement total de ces articles, c'est qu'on voit naître effectivement la préoccupation pour le jeune cinéma italien d'après-guerre, donc qu'il appelle l'école italienne de la libération. Donc ça, on le savait déjà, mais il fallait encore penser que ça avait de l'importance de le lire dans ce titre, hein, néoréalisme ou l'école italienne de la libération. Or, en regardant tous ces articles, on s'aperçoit que d'abord, il ne parle pas de néoréalisme. Il ne parle de néoréalisme qu'à partir d'un certain moment et avant, chaque fois qu'il en parle de ce que nous considérons néo-réaliste, parce que c'est ce qu'il va nommer, il appelle ça l'école italienne de la libération. Donc il y a une école italienne, et pour lui, Bazin est un contextuel, hein, à la différence de ses jeunes amis qui ensuite vont être légèrement plus formalistes tout de même, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il n'est pas continuitiste, mais c'est un contextuel, c'est-à-dire qu'il lui faut un moment historique, et donc là c'est le moment historique qui lui plaît, c'est la fin du fascisme, et c'est une nouvelle nation qui se crée, et quelque chose existe dans l'ordre du cinéma qui est totalement novateur, donc ce qu'on va nous appeler la modernité, mais qui est, que Bazin dit, évolution conquérante du langage. Hein, c'est-à-dire, quelle définition du réalisme? C'est une des choses les plus difficiles, la définition du réalisme tout court. Et lui dit évolution concurrente du langage, ce qui permet de comprendre que chaque fois que quelque chose est complètement nouveau et ça donne au spectateur le sentiment d'une puissance du réel ou d'une puissance de la réalité tout parce que c'est nouveau. Ce qui explique qu'il peut défendre dans le même article Wyler, Rossellini, Wells, et avec toute conscience de la différence énorme entre ces auteurs. Donc il essaye de trouver un rassemblement. Voilà. Donc ça, c'est une définition du réalisme. Et c'est vrai qu'il a mis lui-même, il a fait ressortir lui-même un mot qui a été ensuite accolé toute sa vie à lui, c'est ontologique. Alors je ne pense pas que ce soit un grand penseur de l'ontologie au sens philosophique du terme, mais c'est un mot qu'il a employé de temps en temps. Et il a ressorti un article vraiment de sa jeunesse quasiment, hein, ontologie de l'image photographique, qui ensuite a fait le tour du monde. Parce qu'il l'a mis en ouverture de ses écrits. Lui-même, il les a choisis juste avant de mourir. Et donc, le tome 1 de Qu'est-ce que le cinéma, quand Qu'est-ce que le cinéma était encore en 4 tomes, hein, le premier tome est sorti 15 jours après sa mort, mais il l'avait entièrement préparé et il avait fait ce montage souverain, vraiment, où il met en premier ontologie de l'image photographique, où il ne parle pas vraiment de photographie, ce texte est donc à la fois complètement connu, le plus connu de Bazin. Et donc Bazin est associé à ce qu'on appelle le réalisme ontologique pour cette raison, pour un seul article au fond, et complètement méconnu aussi, puisque cet article, écrit en 1944, paru en 1945 dans un livre sur l'art français, Problème de la peinture, un très très gros bouquin avec des gens très très célèbres, une quarantaine de personnes très célèbres, des peintres, des critiques très célèbres à l'époque, et Bazin, complètement inconnu, fait un texte 2 ou 3 fois plus long que les autres et franchement génial, puisqu'il a fait le tour du monde et on en parle encore aujourd'hui, alors qu'on ne connaît plus du tout le livre « Problème de la peinture », sauf de rares historiens de l'art qui le connaissent historiquement. Quoi.
They walked out on me. They haven't done this since I was a beginner. The cycle's complete.
But you've changed your name, they didn't know you.
No, I wasn't funny. Trouble is, I was sober. I should have been drunk before going on.
Well, I still insist they didn't know you.
It's just as well they didn't.
Naturally. You can't expect too much the first performance. You haven't worked in a long time. But you'll see. Tonight, when you go back, it'll be different.
I'm not going back.
Why?
They've terminated the contract.
But they can't do that.
They can. They have.
But you were engaged for the week. You can insist.
It's no use. I'm finished. Through.
Nonsense. Are you, Calvero, going to allow one performance to destroy you? Of course not. You're too great an artist. Now's the time to show them what you're made of. Now's the time to fight. Remember what you told me standing there by that window. Remember what you said about the power of the universe moving the earth, growing the trees, and that power being within you. Well, now's the time to use that power and to fight. Calvero, look, I'm walking. I'm walking. I'm walking. I'm walking. Calvero!
Peu de films ont été aussi couverts, analysés et réanalysés par Bazin au cours de sa vie que Limelight, les feux de la rampe de Chaplin, écrivez-vous Hervé Joubert Laurencin. Et sauf que avant d'écrire et de réécrire, il faut le voir une première fois et écrire tout de suite après. Et là on a quelque chose de très touchant, c'est le Bazin qui se plaint de la condition habituelle du critique qui est d'écrire tout de suite sur un film qu'on vient de voir. Cruelles sont parfois les obligations de la critique, se plaint-il dans un article du Parisien Libéré du 31 octobre 1952, les obligations de la critique qui nous contraignent à rendre compte non seulement hâtivement, mais après une seule vision d'une œuvre qui mérite la familiarité et la méditation, qu'on imagine, poursuit-il, si Shakespeare et Molière étaient de notre temps, qu'il faille juger sur le champ le roi Lear et Don Juan quelques heures après leur première représentation. Alors, la comparaison est lourde quand même. Chaplin, c'est à la fois Shakespeare et Molière. Il n'a pas l'admiration légère, André Bazin.
Oui, mais c'est Limelight. Limelight, c'est quand même complètement extraordinaire. Et pour Bazin, ça a été un film extraordinaire. Et tout ce qui est extraordinaire pour Bazin, c'est d'être le contemporain du nouveau Chaplin. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que Bazin.
Parce qu'il écrit pas sur Charlot, écrit sur l'après Charlot.
Il a écrit sur Charlot, bien sûr, parce que justement, il avait, selon moi, c'est parce que Chaplin faisait encore des films. Et même faisait avait comme une nouvelle vie. Et finalement, une vie du parlant. Et Bazin, c'est l'homme du parlant, quand même. Bazin ne parle pas de cinéma muet. Comme à son époque, on voyait assez peu de films, c'était assez difficile d'en voir beaucoup. On en voyait en ciné-club, on en voyait quelques-uns, mais on n'avait pas cette connaissance du cinéma muet qu'on peut avoir plus tard. Et c'est ça qui est assez surprenant, enfin pas surprenant, mais assez beau, c'est qu'il ne parle que de, au fond, le début de sa parole est toujours de films qu'il vient de voir, effectivement. Donc pour Chaplin, c'est un des rares moments où il parle de cinéma muet. Parce que Chaplin continue à faire des films. Mais ce qui l'intéresse chez Chaplin, c'est les films qui arrivent et qui sont donc complètement énigmatiques, qui prennent les gens complètement à rebours. Et effectivement, il y a des polémiques à l'époque sur donc Chaplin n'existe plus, le grand Charlot c'est fini, etc. C'est la fin de la mythe. Et Bazin, lui, prend la chose par le mythe. Parce que c'est une des grandes théories de Bazin de suivre la mythologie de Bogart, la mythologie de Chaplin, la mythologie de Gabin. Il a pris plusieurs exemples comme ça, qui sont assez suivis d'ailleurs dans plusieurs textes. Et on peut dire aussi que c'est un évolutionniste. C'est aussi quelqu'un, c'est très bizarre ça, parce que très peu de gens au fond dans l'histoire des théories du cinéma sont évolutionnistes. Et Bazin est clairement, volontairement un évolutionniste. Donc il essaie de prendre en compte des choses qu'on étudie assez peu souvent, qui sont l'ensemble d'une œuvre avec son évolution. Et ça lui plaît beaucoup. Donc Chaplin, il réagit directement effectivement. Et Limelight, je suis assez d'accord avec lui sur le fait que c'est un film tellement, tellement incroyable et tellement extraordinaire qu'il le prend de plein fouet en n'osant pas en parler tout à fait, hein, pour commencer. Puis après, ça n'arrête pas. Il y a une série d'articles qui sont longs et tous différents, en plus. Ça aussi, c'est très fascinant. Hein. C'est pas le seul exemple. C'est une des grandes surprises de l'édition complète. C'est que Bazin écrit jusqu'à 7 fois sur le même film. Bon, mais il arrive à écrire des articles différents. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une variation dans la façon de le décrire. Or, qu'est-ce que la critique? C'est quand même la description et la façon d'écrire qui va faire comprendre quelque chose, saisir quelque chose. Et à chaque fois, on saisit quelque chose de nouveau parce que ce n'est pas la même tournure, la même formule, la même façon d'arriver à l'idée. Et ça, c'est formidable. Et notamment pour Limelight. C'est
alors,
un grand exemple.
On a passé un extrait de Chaplin. On aurait pu prendre plus facilement un extrait de Renoir ou de Wells, qui sont vraiment les monstres, les ogres.
Ou des Sica.
Ou des Sica. Mais c'est vrai qu'il y a des cinéastes comme ça qui l'occupent beaucoup et qui le passionnent. Et puis, il y en a qui sont peut-être un peu oubliés aujourd'hui, considérés comme plus mineurs et qui pourtant font progresser énormément la pensée de Bazin.
Tiens, le voilà! Les gardiens étaient très contents d'avoir retrouvé Crin-Blanc. Et Crin-Blanc était résolu à ne pas se laisser reprendre.
Votre chapeau.
Et la salopette, celui qui la veut, je la lui donne.
Même à moi?
Oui, même à toi. Mais quand tu l'auras attrapé, tes poissons, eh bien, ils auront des ailes.
Albert Lamaurice a réalisé avec Crin-Blanc une œuvre qui fera date dans le film poétique à base documentaire. Il y a dans ce film le sentiment de la nature de Flaherty, la poésie d'un conte d'Andersen et le sens de la liberté de Jean Vigo. Tiens, le voilà déjà. Jean Vigo, c'est ce qu'écrit André Bazin dans Le Parisien Libéré le 26 février 1953. Mais alors, tout en l'admirant, quelques mois après, il lui fait dans les cahiers du cinéma un reproche à cause d'un plan, ou plutôt de l'absence d'un plan. Il aurait voulu voir, après la séquence où Crin-Blanc traîne au galop le petit Folco au bout d'une corde, il aurait voulu voir dans un plan le cheval et l'enfant ensemble. Il me semble, écrit-il, qu'on pourrait poser en loi esthétique le principe suivant: quand l'essentiel d'un événement est dépendant d'une présence simultanée de deux ou plusieurs facteurs de l'action, le montage est interdit. Le montage est interdit, voilà, c'est une idée qu'il développera 3 ans plus tard dans un très fameux article des Cahiers du cinéma, repris lui aussi dans Qu'est-ce que le cinéma ? Montage interdit et qui fera de lui, dans le basinisme que vous déplorez, Hervé Joubert-Laurencin, dans cette vulgate de la pensée de Bazin, l'ennemi du montage.
Oui, bah, que n'avait-il pas écrit avec ce paragraphe ?
Montage interdit.
Qu'on lui a reproché sa vie entière et sa post-vie entière dans toute sa vie posthume. Oui, évidemment, le titre est une hyperbole. Et même à l'intérieur du paragraphe, c'est une exagération volontaire. Le montage est interdit, c'est pour que le lecteur comprenne bien. Ça fait partie du style de Bazin, très imagé, avec des figures de style très, très violentes. Et beaucoup de gens l'ont pris au pied de la lettre. Enfin, quand on reprend Bazin de façon pédagogique pour simplifier les choses, c'est même une sorte de paradoxe incroyable. C'est-à-dire, il existerait donc un critique de cinéma, ce serait même le plus célèbre, parce que si on est dans la mythologie, Bazin est plus grand que les autres, alors que Bazin ne revendiquait pas d'être plus grand que les autres, moi non plus d'ailleurs, c'est un critique comme les autres critiques. Bon, et donc si c'est le grand critique, il existerait ce paradoxe d'un grand critique qui pourrait dire que le montage, c'est pas bien dans les films, ce qui est quand même un truc incroyable. Quoi. On en a parlé, là, quelqu'un disait la même chose à Palerme, là, il y a 3 jours, dans un colloque très 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 bon sur Bazin aussi, qui a lieu en ce moment à cause du centenaire. Et quelqu'un disait, mais moi j'explique ça à mes étudiants depuis toujours, comment est-ce que vous pouvez croire que quelqu'un qui écrit sur le cinéma toute sa vie peut dire que le montage ne doit pas être dans un film ?
Il faut dire qu'en plus, cet article des Cahiers du cinéma paraît dans un numéro où paraît un autre article, qui est celui de Jean-Luc Godard, qui s'appelle lui « Montage, mon beau souci ».
Voilà, c'est magnifique.
Donc tout d'un coup, il y en a un qui est contre le montage, qui l'interdit, voilà. Et l'autre pour qui c'est tout le cinéma.
Voilà, alors ce serait une opposition. Moi, je déconstruis complètement cette opposition. Elle est fausse, à mon avis. Il suffit de lire l'article de Godard, qui est le plus bel article de Godard, qu'il ait jamais écrit dans sa vie. Elle y est très court et il est magnifique. Mais c'est vraiment un texte très beau, celui de Godard, précisément parce qu'il dit « Faire du montage, c'est faire de la mise en scène, et faire de la mise en scène, c'est déjà faire du montage. » Donc, lui-même déconstruit complètement l'idée que le montage serait une chose par-dessus, qui reprendrait tout, qui expliquerait tout et qui donnerait le mot final. Hein, c'est absolument pas ça. Tout ça, c'est des histoires de pouvoir, au fond. Des histoires de pouvoir masculin. Hein. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui aurait le pouvoir, c'est le producteur ou bien c'est l'auteur. Et c'est toujours des hommes qui veulent avoir le dernier mot. C'est pas du tout la position de Bazin. Bazin n'est pas du tout comme ça. Bazin, au contraire, est dans le lâcher-prise. C'est précisément pour ça que pendant les périodes terroristes, on peut plus comprendre Bazin. Parce que Bazin, au contraire, est dans, échafaude toute une théorie du cinéma, si on veut en faire un théoricien, qui globalement dit que l'homme n'est pas maître de l'univers. qu'il y a une nature existe, que quelque chose existe avant lui, et que du coup le cinéma est cet art extraordinaire parce qu'il interpose une machine, donc l'homme ne peut pas dire je suis tout puissant sur tout. Donc la question du montage, je pense qu'elle est aussi, là. Hein. Et donc, moi, je ne crois pas que... Enfin, j'ai été jusqu'à dire, par provocation, mais c'est une provocation à laquelle je crois, que c'est peut-être un des seuls textes où Bazin parle vraiment du montage, est vraiment montagiste, puisqu'il dit, sur ce plan-là, il faut faire un plan en un seul... Il ne faut pas faire une coupe, il ne faut pas faire la coupe ici, il faut la faire là. C'est absolument une prescription de montage, pas une prescription d'anti-montage. Donc, l'anti-montagisme basinien est juste une construction... posthume qui fait de Bazin quelqu'un qui voudrait empêcher quelque chose, alors que précisément c'est exactement le contraire.
Alors ce qui est assez touchant aussi quand on lit ces textes rassemblés dans les écrits complets, Charlotte Garçon, c'est qu'on voit apparaître un André Bazin, et c'est bien pour ça qu'on a passé cet extrait de Crin Blanc aussi, qui est très intéressé par ce qu'il appelle le film d'enfant. Il va souvent s'y pencher, il va faire de nombreuses critiques, par exemple du petit fugitif. Charlotte Garçon.
Oui, je pense que ça rejoint cette idée de évolutionniste et aussi ces métaphores qui souvent sont empruntées quand même aux sciences de la vie et qui sont cette idée du hasard. Enfin, effectivement, il y a de l'accident, il y a du hasard et le cinéma est capable normalement de l'intégrer. Alors que ce soit sous la forme du non-montage ou que ce soit sous une autre forme, et du coup, la figure de l'enfant, j'allais dire, c'est aussi une figure de l'accueil de l'accident. Et c'est ça qui est très beau. C'est pas l'enfant dans le sens de petit singe savant. C'est le contraire. Le petit fugitif, c'est ça aussi. C'est une errance. Et notamment l'enfant aussi d'Allemagne année zéro, de Roberto Rossellini.
Oui, qu'il n'aimera pas beaucoup à sa sortie, mais qu'il va reconsidérer après. Ça allait repentir de Bazin et ses conversions, on pourra en parler. Alors, il aime les films d'enfants, mais il aime évidemment beaucoup le film d'adulte aussi.
And now, fellas, we'll hear that fine new platter by Nat King Cole. I'd rather have the blues.
Tonight is my chilly and conversation seems pretty silly. I feel so mean and brought. I'd rather have the blues than what I've got. The room is dark and gloomy. You don't know what you're doing to me. The web has got me caught. I'd rather have the blues than what I've got. All night I walk the city, watching the people go by. I try to sing a little ditty, but all that comes out is a sigh. The street.
The plum isn't good enough for you. You've got to use your whole body.
Rain. Do you stop if I use my thumb?
No. What's this all about? I'll make a quick guess. You're out with some guy who thought no was a three-letter word. I should have thrown you off that cliff back there. I might still do it.
Yeah.
Where are you headed?
Los Angeles. Drop me off the first bus stop.
You always go around with no clothes on?
Vous écoutez France Culture, plan large sur André Bazin. Ce qu'on entend, c'est Kiss Me Deadly en quatrième vitesse de Robert Aldrich. Parfois, la bande-son d'un film peut révéler le sens caché d'une scène, parce que ce n'est pas du tout une scène de sexe qu'on vient d'entendre. C'est une femme terrorisée, terrifiée, essoufflée, qui vient de se réfugier dans la voiture de Mike Hammer au début du film. Donc, André Bazin voit émerger Robert Aldrich. Il y voit un des grands espoirs du nouveau du cinéma américain. Il compare le film à la Dame de Shanghai. Il dit qu'il ne le tiendra pas pour inférieur en qualité à ce film, donc c'est dire le compliment, parce que c'est un grand admirateur de Wells. Bazin, on n'a pas l'impression que le film noir soit sa grande préoccupation. C'est plutôt le western sur lequel il va beaucoup écrire. Par contre, il va souvent se poser la question, comme d'autres, comment est-ce qu'on peut faire œuvre au sein d'un système aussi coercitif que Hollywood. Donc il va dire concernant Aldrich que quand des cinéastes arrivent à faire œuvre personnelle, il ne faut pas dire qu'ils se sont bornés à échapper à ce système, il faut dire au contraire que la qualité de leur travail devient la multiplication de leur génie personnel par le génie du système. Or, concernant quelqu'un qui va faire beaucoup œuvre à Hollywood, qui est Hitchcock, il va pas avoir exactement le même discours. Il va écrire énormément sur Hitchcock, il va être très sceptique dessus, mais ça va être l'objet de grandes frictions à l'intérieur des cahiers du cinéma, puisque la fameuse politique des auteurs portée par les jeunes Turcs, les Truffaut, les Godard, Rivette, Chabrol et autres, prennent Hitchcock comme exemple justement de l'auteur absolu. Alors Bazin, c'est très étonnant, va considérer que cette théorie de la politique des auteurs n'est pas bonne parce que ce n'est pas une théorie, mais il va la laisser s'exprimer au sein des cahiers du cinéma qu'il dirige.
Oui, avec Daniel Valcroze.
Avec Daniel Valcroze.
Daniel Valcroze et Bazin sont à ce moment-là les co-rédacteurs en chef de la revue et les jeunes ont émergé, c'est-à-dire des gens jeunes d'ailleurs, pas forcément par la biographie, hein, puisque Romer est presque de l'âge de Bazin, mais Romer est un cas particulier. Il commence avant les autres, il est plus vieux que les autres, mais en fait, il mène la même aventure à la même époque. Et donc, tous ces jeunes qui sont encore seulement des critiques et qui vont devenir des cinéastes, comme on sait, de la nouvelle vague, et donc avoir une reconnaissance mondiale, c'est évidemment un nœud très important pour comprendre la mythologie de Bazin aussi, puisque Bazin est considéré comme le père de la nouvelle vague de façon absolument abusive au sens propre du terme, et absolument vrai, puisqu'il y a quelque chose de presque sociologique ou culturel, militant, dans l'idée que Daniel Valcroze et Bazin ont une certaine idée du cinéma, même très très précise. Les jeunes, qu'on appelle les jeunes turcs, qui s'appellent les jeunes turcs, ou que Bazin appelle aussi les jeunes turcs, à cette époque-là, en ont une également très précise, mais souvent par opposition d'ailleurs. Et donc il y a quelque chose de l'ordre de la génération, y compris avec Bazin et Daniel Valcroze. Très souvent, on s'aperçoit dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont présentées contre justement ce qui pourrait être institutionnalisé dans la parole de Bazin ou de Doniol. Mais Doniol et Bazin n'ont aucun problème pour les reconnaître comme des grands stylistes et surtout comme des grands cinéphiles. Ce qu'on arrive à lire, ce qu'on arrive à comprendre de cet amour finalement, parce que c'est de l'ordre du désir. Au fond, c'est des jeunes gens qui sont désirables. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont un discours sur le cinéma qui est différent parce qu'il est excitant. Enfin, moi, c'est comme ça que je le lis. Et il y a quelque chose de l'ordre, c'est presque, c'est pas homo-érotique, faut pas exagérer, mais il y a quelque chose de l'ordre du désir. C'est-à-dire que il y a une façon de parler qui est belle ou qui est excitante parce que pleine d'énergie. Et fondamentalement, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que d'abord, il y a beaucoup d'idées. Et ensuite, Bazin reconnaît une chose. Il dit, voilà, quand les gens, j'ai du respect pour les gens qui vont voir 15 fois, 20 fois un film et qui ensuite savent de quoi ils parlent. Donc, qu'ensuite ils se trompent sur, selon lui, qu'ils se trompent sur des conceptions qui sont, effectivement, moi je suis assez d'accord avec Bazin, je trouve que c'est des conceptions relativement académiques. Moi, je trouve que cette période-là sont des gens qui veulent absolument avoir une légitimité littéraire, donc ils ont une pensée un peu académique par rapport à celle de Bazin, qui est beaucoup plus alerte et beaucoup plus jeune. Je m'excuse de continuer la provocation, mais bon, c'est pour renverser les choses à la Bazin, mais ça me semble un peu vrai. Et donc, peut-être leurs formulations sont un peu engourdies, je trouve, par une forme d'académisme littéraire, ce que n'est pas Bazin, qui est passé par-dessus ça et qui a beaucoup mieux intégré l'érudition qui est la sienne. Mais dans l'amour des films, avec Doniol, il respecte ça merveilleusement en disant, nous avons là, dans notre revue Les Cahiers du Cinéma, une brigade de gens qui peuvent en remettre à tous les autres. Quoi. C'est-à-dire qu'eux ont vu tous les films, eux, ils ont des idées très très précises, et donc c'est une sorte de gang formidable. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, il y a eu une aide objective énorme de la part de cette revue dirigée par Doniol et Bazin pour que ces jeunes gens soient poussés, en quelque sorte. Et ça a très bien marché. Et évidemment, la revue y a gagné aussi, puisque ça a très bien fonctionné.
night is mighty chilly and conversation seems pretty silly. I feel so mean and rot, I'd rather have the blues than what I've got. The room is dark and gloomy, you don't know what you're doing to me. The web has got me caught, I'd rather have the blues than what I've got.
Merci Hervé Joubert Laurencin, votre édition des écrits complets d'André Bazin est parue aux éditions Macula. C'est un tour de force et nous sommes vraiment heureux d'avoir pu le saluer avec vous. L'histoire du cinéma vu par André Bazin se termine ce soir à la Cinémathèque française avec la projection d'un film qu'il n'a pas vu mais qu'il aurait certainement adoré, Roar, à 20h30. Le colloque se poursuit cet après-midi, vous allez filer le rejoindre et puis on pourra voir aujourd'hui à 18h15 à la Cinémathèque française le film que vous avez consacré à Bazin, Bazin Roman, signé Hervé Joubert-Laurencin et Marianne Dautré. Et puis pour prolonger le plaisir, on signale le numéro 857 de la revue Critique, André Bazin, Le Regard Inépuisable, et puis le livre de Laurent Le Forestier, La Transformation Bazin, aux presses universitaires de Rennes, si cher à Pascaline Bonnet. Bazin saluait le sens du rythme et du mouvement, l'aisance de l'imagination dans Le Merveilleux de René Clair dans C'est arrivé demain, même s'il regrettait qu'il soit, contrairement à ses films français, privé de cette aura poétique trop délicate pour la robuste machine internationale de Hollywood. Eh bien, vous en jugerez vous-même. Le film est ressorti en salle mercredi dernier. Bazin s'était ennuyé en revoyant en version française en 1944 La huitième femme de Barbe Bleue de Lubitsch, mais trouvait tout de même le film charmant. Je suis certain que vous le reverrez avec bonheur en salle. Il sort, lui, mercredi prochain. Bazin, enfin, reconnaissait son incompétence totale à critiquer des musicals, car l'érudition des amateurs du genre lui donnait un complexe d'infériorité. S'il vivait encore, il aurait pu se rattraper en allant à la Cinémathèque française, là encore, qui propose sa rétrospective comédie musicale jusqu'au 6 janvier, à voir en parallèle avec l'excellente exposition orchestrée par l'ami Ntebin à la Philharmonie de Paris. Et puis on signale enfin la parution en coffret DVD de l'intégrale des films de René Ferré, 40 ans de cinéma, sur lequel nous reviendrons sans doute dans Plan Large. Là, Bazin n'a pas pu le connaître, et évidemment, son premier film Histoire de Paul est de 1975, année où il a reçu le prix Jean Vigo. Tiens, Jean Vigo.
Mon petit, le conseil de discipline, n'est-ce pas, a consenti, sous la forte pression de ton professeur trop bienveillant, vous êtes magnanime, monsieur Vieux, a consenti, dis-je, par considération pour ta famille, par bonté pour toi, et à l'occasion de notre chère fête qui sera célébrée demain, à te pardonner. Mais, n'est-ce pas, du reste, tu es venu spontanément, si j'ose dire, me prier d'accepter tes excuses, qui ne sauraient avoir de valeur que formulées en public et devant tous tes camarades. Nous attendons. Eh bien, dis-nous ce que tu veux nous dire. Dis-nous ce que tu as envie de dire, allons.
Monsieur le professeur, je vous dis merde.
Sa vie fut brève, son œuvre ne comporte que 4 titres, dont 2 de court-métrage et 1 de moyen-métrage. Jean Vigo, écrit encore André Bazin dans France Observateur en 1957. Jean Vigo est un cinéaste merveilleusement doué, pour certains même génial, mais qu'une mort prématurée à 29 ans a empêché de donner sa mesure. À propos de Nice, la natation par Jean Tharis, Zéro de conduite et L'Atalante suffisent amplement à faire de Jean Vigo l'un des plus grands, et en tout cas le plus pur des poètes de cinéma. Que signifient les regrets de ce que Vigo n'a pas eu le temps de réaliser quand les l'évidence de son œuvre a de quoi nous combler. Probablement, s'il avait survécu, conclut Bazin, Jean Vigo aurait pu réaliser d'autres chefs-d'œuvre plus achevés, peut-être que L'Atalante, mais on peut douter que ces films parfaits nous eussent appris autre chose que ce que nous pourrons puiser dans les brèves merveilles qu'il nous a laissées. Ces brèves merveilles, elles sont enfin disponibles en version restaurée grâce à Gaumont, qui les sort dans un très beau coffret DVD accompagné d'un livre inédit de 100 pages. Est-ce que vous y avez retrouvé, Charlotte Garçon, cette irradiation intérieure de l'image, cette espèce de phosphorescence mystérieuse, ce qui est sans doute l'approche la plus concrète que l'écran ait encore connue de la poésie cinématographique à l'état pur, et je n'accepte même pas Jean Renoir, ce que célébrait Bazin, encore lui.
Oui, c'est un coffret sous la supervision de l'historien du cinéma que vous avez souvent reçu ici à Plan Large, Bernard Eisenschütz. Et je trouve que ce bloc blanc complémenterait très très bien le bloc noir des œuvres complètes de Bazin, puisqu'on est autour de Noël, voilà, faut le
faut
dire.
Faut équilibrer sous le sapin.
Exactement. Et donc en un seul coffret, c'est un peu triste, parce que c'est 200 minutes effectivement, donc un seul coffret permet de voir tout Vigo en une séance, comme l'avait découvert d'ailleurs François Truffaut à 14 ans, un samedi après-midi de 1946 au ciné-club de la Chambre Noire, animé entre autres par André Bazin. On n'en sort pas. Donc Vigo, né en 1905, est je crois l'un des premiers cinéastes qui devient cinéaste par vocation. C'est-à-dire qu'il voit beaucoup de films, très très jeune, il aime les films, il est très cinéphile. Quand jeune adulte, il doit déménager à Nice parce qu'il a la tuberculose, il va y fonder un ciné-club, les Amis du Cinéma. Et puis à Nice, il y a les studios de la Victorine, qui viennent d'ailleurs de rouvrir, ça c'est, on en reparlera peut-être dans Plan Large. Et il écrit des lettres pour essayer tout simplement d'y faire des petits travaux pour vraiment apprendre sur le tas la technique cinématographique. Il dit même dans une lettre, je suis prêt à ramasser le crottin des artistes, des vedettes. Et donc, il achète aussi sa caméra, par exemple. Voilà, des espèces d'initiatives individuelles. Et il va tourner avec cette caméra achetée, qu'il revendra après, parce qu'il n'aura pas assez d'argent, à propos de Nice. Donc, ce documentaire filmé par l'opérateur qui va rester son collaborateur jusqu'à la fin, Boris Kaufman, le frère du très grand documentariste russe Dziga Vertov. Pourtant, alors, c'est pas exactement de la poésie pure, justement. C'est ce film à propos de Nice qui est tourné sur la Côte d'Azur, il pourrait presque être tourné aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une, par le montage, il y a une mise en parallèle très très grinçante entre la vie des riches oisifs, des touristes sur la Côte d'Azur et sur la promenade des Anglais et des figures grotesques du carnaval ou bien de la statuaire du cimetière, les hauts fourneaux aussi, tout l'aspect ouvrier qui est jamais mis en avant à Nice. Et donc ça, on sent que la bourgeoisie ça pue la mort, ça, voilà, il y a quelque chose comme ça qui dénonce cette hypocrisie bourgeoise. Mais donc, cette fulgurance poétique de Vigo, elle se départit jamais de l'âpreté du réel. Alors que ce soit, je cite, sa présentation du film au Vieux Colombier pour éveiller d'autres échos que les rots de ces messieurs-dames qui viennent au cinéma pour digérer, hein, ça c'est ce qu'il dit dans une présentation un peu manifeste, ou que ce soit dans l'extrait que vous avez passé de Zéro de conduite, où un professeur un peu trop caressant envers l'élève hypersensible Tabar, va finalement transformer ce souffre-douleur en un meneur de révolte. Il va, avec ses camarades, mettre à sac tout un collège. Et évidemment, Vigo n'est pas fils d'anarchiste pour rien. C'est-à-dire que ce collège, c'est aussi un microcosme de toute la société. Alors, dans ce coffret, on revoit aussi le documentaire signé Jacques Rosier sur Vigo, les témoignages des collaborateurs de Vigo. Et puis, il y a un film tout récent sur Luce à propos de Jean Vigo, donc la fille de Vigo qui était aussi une critique et vraiment une passeuse merveilleuse de cinéma. Et donc, en voyant ces compléments, on comprend que la bande à Vigo a beaucoup compté dans le fait que son génie précoce a pu porter ses fruits très tôt, puisque ni Zéro de conduite ni La Talente n'auraient pu avoir leur force, alors je disais grâce à l'opérateur Boris Kaufman, mais aussi au compositeur, par exemple Maurice Jobert, autre précoce et autre mort jeune. Et il a composé, Maurice Jobert, non seulement spécifiquement pour le cinéma, ce qui est assez tôt, mais, et pas seulement, mais en tout cas aussi pour le cinéma, mais surtout il a pensé, il a théorisé, si on veut, le rôle de la musique de cinéma, qui doit intervenir, je le cite, en rupture avec la vérité photographique que cherche le metteur en scène. Donc la rupture, vraiment, on l'entend à tous les niveaux chez Jean Vigo. Ce n'est pas seulement un discours, c'est-à-dire le montage très tranché de à propos de Nice. C'est pas seulement un récit, les élèves de Zéro de conduite qui refusent d'obéir. C'est aussi vraiment une forme, un côté intraitable de la liberté du cinéaste qui refuse aussi bien l'art pour l'art que le documentaire factuel. Donc une forme rugueuse, avec couture, on pourrait dire apparente. Un cinéma toujours proche de son état natif, d'un état de commencement. Et La Talente, d'ailleurs, c'est aussi l'histoire des commencements, d'un mariage. Puisque Juliette se marie, elle quitte la terre ferme pour suivre le jour même de sa noce son mari qui est marinier, Jean, sur la péniche.
Et on a quoi ? Amène les cordages. On va accoster.
Père Jules,
as-tu encore avec tes sales chats?
Ben viens voir ce qu'ils ont fait sur le lit. Viens voir la patronne.
Tu t'amènes?
Cochon chat, pas plus cochon que toi. Surtout moins bête. Surtout moins bête.
Voilà.
La mignonne qui a fait ses petits. Où c'est que tu t'étais caché pour les faire? Dis-moi.
Oui, mais sur notre lit, tu exagères, mon vieux.
Ils sont pas de moi. Dehors. Allez,
allez, emmène ça ou je les fous à la flotte.
La flotte? Il m'en reste un gosse, celui-là. Charogne. Viens dans ma mignonne. Viens, ma fille. Là, ma fille, reste pas avec ces méchantes bêtes-là.
Alors, je disais cinéma à l'état naissant. Ici, c'est littéral, hein, cette portée de chaton qui naît sur le lit conjugal, comme une espèce de produit monstrueux de la nuit de noces. Ces chats, qui sont aussi les enfants du magnifique Père Jules, le vieux marin à l'accent vaudois, composé par Michel Simon, juste après Boudu de Renoir. Ces chats donc, vont réapparaître dans l'espace exigu de la péniche La Talente. Ils vont être lancés en fait, sur les acteurs depuis le hors-champ, par un assistant de Vigo. Et ces chats, André Bazin va en faire une sorte d'objet théorique, je le cite dans un article de 1949, inutile les chats que Vigo dans La Talente précipite dans les coins de l'écran à la figure de ses héros. S'ils n'ont point de place dans le scénario, ils sont pourtant la clé de voûte de la mise en scène. Donc en fait, ces chats, c'est vraiment l'imprévu hein, qui interrompt de manière aléatoire comme ça le dialogue, qui surgit. Mais il me semble que ces chats, de par leur fourrure, le fait qu'on ait toujours envie de caresser un chat quand on le voit, participent d'une dimension tactile qui traverse tout le film et qui rejoint ce que Bazin appelle l'admiration presque obscène que Vigo a pour la peau humaine. Hein. C'est-à-dire que Jean Vigo filme de manière à ce qu'on on a l'impression de voir des textures, de les toucher, des matières vivantes, des organiques. Donc il y a la peau tatouée du Père Jules dans La Talente, avec une espèce de graffiti salace à même le corps. La peau laiteuse, très très blanche, de l'actrice Dita Parlo qui joue Juliette. Et puis la peau mouchetée des amoureux qui à un moment sont séparés, lui dans la péniche, elle à l'hôtel, et qui se désirent à distance. Et ça c'est vraiment l'une des scènes d'amour, je crois, les plus belles de tout le cinéma. Et qui fait se confondre la peau et la pellicule. Donc rien que pour ça, c'est effectivement, le film phosphorescent et irradie encore aujourd'hui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
Merci Charlotte Garçon. Jean Vigo, l'intégrale, c'est en coffret DVD chez Gaumont. Et puis je profite de votre présence pour signaler à partir de demain et jusqu'au 18 janvier une rétrospective John Ford au cinématographe de Nantes. Une rétrospective en 15 films que vous avez contribué à construire, Charlotte. Et où notre invité dans le plan large que nous avions consacré à Ford, Cécile Gornet, donnera une conférence le 12 janvier. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Morgane Danan. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, ça vous fera plaisir, Hervé Joubert. Laurencin, vous qui lui aviez consacré un excellent ouvrage il y a 6 ans chez Yellow No. Plan large se portera sur Hayao Miyazaki, l'immense cinéaste d'animation japonais, à l'occasion de plusieurs livres qui sortent et qui lui sont consacrés. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.
Et l'heure du son, couleur du vent, les mariniers, les ronds.